presque 8h sur Europe 1.
Nous sommes là avec un dispositif qui est dissuasif. Parfois, certains migrants arrivent à passer au travers du filet, mais beaucoup moins qu'au préalable.
Le filet s'est resserré. Le flux des migrants est censé être mieux contrôlé. Mais sur le terrain, comment fait l'Europe concrètement pour contenir leur arrivée entre incitation financière à rester en Turquie et présence maritime pour décourager la traversée vers la Grèce? Ce matin, nous vous emmenons des deux côtés de la frontière de l'Union européenne. Grand reportage européen en direct dès le début de ce journal. À la une également, la tarification dynamique. Une nouvelle offre d'électricité qui n'est pas sans risque. Et puis Édouard Philippe qui continue de cultiver sa popularité et le mystère sur ses intentions. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À 18 jours des élections régionales, le Tour de France présidentiel passe mal auprès des opposants, avalanche de critiques. Alors que répond le député de Paris et délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini? Il est mon invité, rendez-vous 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Ils étaient 1 million en 2015. 1 million de migrants à être rentrés dans l'espace Schengen. Nous étions en pleine crise syrienne. L'Europe s'était déchirée entre un vœu de solidarité d'Angela Merkel et la fermeté de pays comme la Hongrie. Nous sommes loin de cette vague historique, mais la question migratoire est toujours aussi vive, toujours au cœur de nos débats politiques et de la diplomatie avec la Turquie, porte d'entrée vers l'Europe.
Et c'est là que nous attend Jean-Sébastien Soldaini. En direct. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, où vivent près de 4 millions de réfugiés syriens.
Et nous sommes en direct simultanément avec notre spécialiste des questions européennes. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Vous étiez récemment du côté européen de cette frontière, c'est-à-dire en Grèce. On y revient dans un instant.
Jean-Sébastien, l'Union européenne a passé un pacte avec la Turquie d'Erdogan. C'était en 2016. Cela représente 6 milliards d'euros. L'Europe finance de nombreux programmes destinés à retenir en Turquie les réfugiés arrivant de la Syrie voisine.
C'est ça, tout est fait pour les ancrer au sol turc à long terme. Ça commence par l'éducation. Il faut intégrer les enfants syriens au plus vite dans le système scolaire et donc dans la population. C'est le but du programme Concern que coordonne Erin Wall dans la ville de Şanlıurfa. Ce sont des cours en arabe et en turc. Pour y accéder, les Syriens doivent s'enregistrer auprès des autorités locales et cela donne droit à certains avantages.
Une fois enregistrés, en plus de l'éducation, les bénéficiaires ont accès au système de santé et à un soutien psychologique.
C'est une façon de leur dire, vous pouvez rester ici pour longtemps.
Absolument, le gouvernement turc a bien intégré le fait que le conflit syrien ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et l'intégration des réfugiés dans le système éducatif, c'est la clé.
Et si les enfants sont assidus, un coup de pouce financier est versé à la famille. Là encore, c'est l'Union européenne qui paie. Tout le monde y trouve son compte puisque les parents sont associés au programme. Asmaa a vite vu que ses trois enfants s'intégraient très bien à la vie locale.
Au début, quand mes enfants venaient dans ce centre, les profs ne les laissaient pas partir sans que je vienne les récupérer. Petit à petit, ils les ont laissés prendre le bus pour rentrer à la maison en me passant un coup de fil pour savoir s'ils étaient bien arrivés. C'est comme ça que mes enfants et moi on a pris confiance.
De cette façon, beaucoup d'enfants de 10-15 ans n'ont quasiment plus de souvenirs de leur vie en Syrie et sont bien plus attachés à la Turquie. Certains ne savent même pas parler arabe. À côté de ça, chaque famille syrienne a droit à une carte de crédit sur laquelle est versée un peu plus de 15 euros par personne et par mois. C'est encore un programme financé par l'Union européenne, du cash qui permet de payer loyer, facture, ce qu'ils veulent. Seule condition pour en bénéficier, s'enregistrer auprès des autorités.
Jean-Sébastien, est-ce que pour autant les réfugiés syriens renoncent à se rendre en Europe ?
Pas du tout, enfin pas pour tous. Une autre ONG financée par l'Union européenne reçoit chaque jour des demandes de conseils pour aller en Europe. Mais ils ne peuvent aider que ceux qui subissent des violences liées à leur orientation sexuelle ou pour les urgences médicales. Tout ça ne dissuade pas Hayat, jeune maman de 4 enfants.
J'envisage d'aller ailleurs qu'en Turquie. C'est vrai que j'y suis aidée et que je n'aurais jamais pu sauver mon fils blessé si je n'avais pas eu tout ce soutien. Mais si un autre pays est plus sûr et qu'il permet d'offrir un meilleur avenir à mes enfants, j'irai.
Comme elle, beaucoup s'estiment heureux de leur sort, mais malgré l'aide qu'ils y reçoivent, elle est mince, mais elle existe, ils ne considèrent la Turquie que comme une étape.
Alors justement, rapprochons-nous un tout petit peu de l'Europe. Nous étions dans le sud de la Turquie, allons tout à l'ouest. Il y a ce bras de mer qui nous amène à Lesbos, île grecque, autrement dit, d'une rive à l'autre, il y a quelques kilomètres qui séparent la Turquie de l'Europe.
Et c'est là que vous intervenez, Isabelle Horry. Vous étiez pour Europe 1 en reportage à Lesbos, là où arrivent ceux qui tentent le voyage vers l'Europe.
Oui, la frontière passe hein, dans la mer Égée entre Lesbos et la Turquie. J'ai accompagné sur l'eau une patrouille portugaise de Frontex. Les gardes-frontières européens guettent les bateaux des passeurs. Alors parfois, les gardes-côtes turcs sont proches, ça peut être tendu. Grèce et Turquie s'accusent de refouler ou de pousser les migrants. De Lesbos, on voit la Turquie à l'œil nu. Alors ce jour-là, c'était très calme, mais les apparences sont trompeuses, m'a expliqué Stéphane Bonmarchand de Frontex.
Quelques heures, tout peut basculer. La configuration géographique est telle qu'il faut, dans certains endroits, moins de 20 minutes entre le départ et l'arrivée sur les côtes. C'est pour ça que nous sommes là, avec un dispositif qui est dissuasif. Parfois, certains migrants arrivent à passer au travers du filet, mais beaucoup moins qu'au préalable.
Ces derniers jours, moins de 40 migrants ont atteint les plages de Lesbos. Sur les Y, entre janvier et avril, il y a eu moins de 5000 arrivées, avant tout des Afghans et des Syriens. Et
qu'est-ce qui se passe alors pour eux ?
À cause du Covid, ils sont mis en quarantaine. Au bout de 2 semaines, ils ont un entretien avec les gardes-frontières. Alors, j'ai pu en écouter certains. On leur demande d'où ils viennent, pourquoi ils demandent l'asile. Il y a des interprètes qui évaluent en même temps hein, si leur langue correspond à ce qu'ils déclarent. Et c'est l'occasion de récupérer aussi des informations sur les réseaux de passeurs. Ensuite, chacun d'entre eux est enregistré dans le système européen, m'a dit celui qui supervisait la procédure.
On arrive les gens ici pour prendre la photo et pour prendre les empreintes digitales, pour que leur processus d'enregistrement en tant que migrant soit officiel. Ici, ils commencent leur nouvelle péripétie pour pouvoir rester ou non, parce que ça c'est après à d'autres instances de décider, en Europe.
En attendant l'examen de leur demande, l'envie d'Europe des migrants se termine souvent dans le camp de Lesbos. 7000 personnes y patientent en ce moment.
Ce que nous venons d'entendre ensemble dans le journal de 8h d'Europe 1 ce matin, on illustre clairement les progrès et les limites de l'action de l'Union européenne face au flux de migrants. Merci beaucoup Isabelle Horry et Jean-Sébastien Soldaini. Nous étions ce matin, grâce à vous, à Lesbos, en mer Égée, à Istanbul, à Gaziantep. Grand reportage, ce dossier d'Europe 1 est déjà à retrouver sur europe1.fr. 8h06.
Après la panne géante des numéros d'urgence mercredi soir, la justice devrait enquêter, car au total, les décès de 4 personnes pourraient être liés à cet incident très grave, dont un petit garçon de 2 ans en Vendée, les autres victimes se trouvant à Vannes, à Aix-en-Provence et à La Réunion. En plus de l'audit externe commandé par le gouvernement, l'opérateur Orange annonce une enquête interne avec des conclusions sous 7 jours.
L'actualité à hauteur de notre quotidien et de nos factures d'électricité, un nouveau type d'offre arrive sur le marché.
Leclerc a déjà lancé la sienne, d'autres fournisseurs s'apprêtent à faire de même. La tarification dynamique, le prix de l'électricité qui varie en fait en fonction des marchés mondiaux. Maude Descamps, on va le dire, hein, clairement, ce n'est pas sans risque pour les consommateurs.
Oui, parce que si sur le papier, c'est une offre alléchante pour les gros consommateurs d'énergie, ils vont pouvoir moduler leur consommation en fonction des prix. Pour les petits consommateurs comme vous et moi, c'est un mode de calcul qui peut être dangereux, avertit Antoine Autier de l'UFC Que Choisir.
Lorsque vous signez votre contrat, vous ne savez pas quel prix vous sera appliqué par le fournisseur. Vous êtes tributaire des évolutions du prix sur le marché de gros et notamment des périodes où les prix sont très élevés en hiver et en heure de pointe.
Le médiateur de l'énergie, Olivier Chaland-Belval, est également prudent face à ce type d'offre. Il demande à ce qu'elle soit davantage encadrée.
Moi, il y a 2 choses que je propose. La première chose, c'est évidemment d'interdire que des offres à tarification dynamique soient souscrites à l'occasion d'un démarchage. Et la deuxième chose, d'encadrer très strictement les hausses et les baisses qui vont pouvoir être produites par l'utilisation de ces offres à tarification dynamique.
Et c'est désormais à la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, de poser les règles. La CRE qui, selon nos informations, compte prendre des mesures pour encadrer au maximum l'information du consommateur.
Maude Descamps, spécialiste des questions d'énergie à Europe 1.
Cette information confirmée il y a quelques minutes par Europe 1. Un homme en état d'ivresse a tué sa femme en la jetant du 8e étage d'un immeuble. C'était hier soir à Colmar. Il avait déjà été interpellé plusieurs fois et condamné pour violence conjugale. Et il avait théoriquement interdiction de l'approcher. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne quelques jours après le 2e coup d'État dans le pays en 9 mois. Paris attend des garanties en matière de transition démocratique.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. À qui est destiné ce message d'amour ?
On vous adore, vous nous manquez beaucoup et vous trouvons très très beau. Ah vous êtes magnifique.
Oh là là. Vous l'entendez.
C'est un homme politique toujours dans un entre-deux et qui se laisse désirer.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Il n'y a pas un seul, mais deux Tours de France politiques en ce moment. Emmanuel Macron d'un côté, Édouard Philippe de l'autre, qui sera aujourd'hui à Orléans pour soutenir le ministre Marc Fesneau, candidat au régional. L'ancien Premier ministre écume les librairies depuis la sortie de son livre Impressions et lignes claires. Aurélie Herbemont a pu le vérifier pour Europe 1. Cette tournée permet à Édouard Philippe de faire fructifier sa popularité.
On vous adore, vous nous manquez beaucoup et vous trouvons très très beau. Ah vous êtes magnifique.
Édouard Philippe ne s'attendait pas à pareille déclaration. Les autres lecteurs sont plus dans la retenue, parlent écriture, Matignon ou lui imagine un destin présidentiel.
En tant que PR, ce serait bien.
Oui, enfin bon, on n'y est pas, là, c'était les municipales, c'est ça qui compte.
Lui aussi est dans la retenue sur ce sujet.
Je trouve qu'on se pose beaucoup la question de savoir qui va être candidat à quoi et qu'on pose finalement assez peu la question de pourquoi être candidat. Qu'est-ce qu'on fait de la France pour les 10-15 ans qui viennent?
Il n'a pas encore de réponse, mais veut structurer son réseau d'élus pour produire des idées. Et quand il conseille à cette étudiante de réfléchir à son avenir, ça vaut aussi pour lui.
C'est la meilleure chose à faire. Quand on ne sait pas encore trop, on réfléchit.
Il n'y a pas de place pour lui avec un Macron aussi haut dans les sondages, tranche un marcheur. Mais il ne faudrait pas le voir comme un trophée déjà rangé sur une étagère, prévient un ami d'Édouard Philippe, qui sera fait grand officier de la Légion d'honneur d'ici 10 jours par le chef de l'État.
Aurélie Herbemont, le tennis, c'est historique. Il n'y a plus du tout de Français en simple à Roland-Garros. Aucun n'a dépassé le cap du deuxième tour. Ça n'était pas arrivé depuis 1968. Et puis un petit événement que les enfants attendaient depuis des mois, la sortie d'un nouveau Disney.
Le monde va mal. La confiance a disparu.
Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas.
Ça s'appelle Raya et le dernier dragon et je vous vois, Mathieu Béliard, vous trépigner, vous précipiter pour regarder ce nouveau film Disney qui sort aujourd'hui, hein, je le répète.
Sur Disney+.
Disney+.
Sur les plateformes, la effectivement. Plateforme. Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 8h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez avec nous à suivre Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h16, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le député de Paris, Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche.
Bienvenue à vous et bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Pourquoi ne pas être transparent? Transparent sur un président qui entre de plein pied en campagne pour la suite?
Vous savez, cette question m'amuse un peu parce que, en réalité, je vois nos oppositions qui critiquent le président de la République parce qu'il fait des déplacements sur le terrain. C'est de ça dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est-à-dire que, en réalité, ils n'ont tellement plus rien à dire sur une campagne de vaccination où on a maintenant dépassé les 27 millions de primo-vaccinés, sur une économie qui a des fondamentaux solides pour pouvoir repartir.
Ils vont vous taxer d'être arrogant, là, monsieur Guérini.
Qu'ils attaquent le président de la République parce qu'il fait des déplacements pour aller rencontrer nos concitoyens. Mais c'est absolument essentiel de faire ça. Vous savez, Sonia Mabrouk, on a vécu une crise qu'on n'a pas choisie. Mais en revanche, je suis convaincu qu'on peut choisir collectivement comment on veut en sortir.
Mais un président qui fait un tour de France...
Et c'est ça qui est l'utilité aujourd'hui d'aller échanger avec nos concitoyens pour le président de la République, au contact, entendre parfois ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. Vous voyez, ce n'est pas une arrogance que de faire ça. Au contraire, c'est de se mettre à hauteur d'homme. Et
mais
on trouve
Guérini,
le moyen de le critiquer.
Faire un tour
cela.
De France pour un président avant des élections, c'est vieux comme la 5e République. Admettez qu'il est en campagne,
mais,
on passe à autre chose.
Vous voyez bien que les attaques qui sont faites sont aussi vieilles que la 5e, voire même que la 4e ou la 3e République, en réalité. La question est d'ailleurs, pardonnez-moi, mais c'est une question que posent les journalistes, dont parlent les opposants, mais je ne crois pas que vous ayez vu un Français qui a rencontré le président de la République sur le terrain qui lui a fait le reproche de venir.
Mais ce
à
n'est pas anodin comme question. Une équité entre des candidats.
Pour écouter des critiques.
Monsieur le délégué général de La République En Marche, ce n'est pas anodin comme question. C'est pour ça que les journalistes et les opposants vous la posent. Une équité, quand même, face à des élections aussi importantes à échéance comme la présidentielle, c'est un sujet majeur.
Mais le président de la République est par nature au contact des Français.
Et par nature candidat dans une 5e.
Mais il n'a pas dit quelle était son intention. Et je crois qu'il a répondu d'ailleurs plusieurs fois à cette question-là. C'est vrai qu'il y a des décisions à prendre dans les mois qui viennent. Il y a un
difficile,
mandat qui est loin d'être terminé. Mm-hmm. Il faut maintenant projeter le pays dans notre avenir.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut
collectif.
Dire ça, ce sont des éléments de langage. On projette un pays avec quelle décision? Il a parlé de décisions difficiles et impopulaires. La réforme des retraites, est-ce que vous, qui êtes en charge du parti présidentiel, vous dites oui, il faut le retour de cette réforme, pas en l'état, mais il faut qu'elle revienne d'ici à l'été ou avant la rentrée?
Je suis très clair sur ce sujet-là. Oui, nous aurons des décisions à prendre collectives pour l'avenir du pays. Cette crise, elle a rebattu beaucoup de cartes. Et l'enjeu, c'est comment on lance une reconquête française. On retrouve notre souveraineté sur notre capacité à produire en France, à réindustrialiser le pays, à produire nos médicaments, à retrouver la maîtrise.
Mais ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir. C'est maintenant que vous envisagez la reconquête.
Vous savez qu'on a fait beaucoup de choses depuis le début de ce quinquennat pour remettre notre pays à niveau, si je puis dire, pour donner à chacun les moyens de choisir sa vie en investissement dans la formation professionnelle, dans l'éducation, en revalorisant le travail, en baissant les impôts comme ça n'a jamais été fait depuis le début du quinquennat. Mais il reste beaucoup à faire, si c'est ça que vous voulez me faire dire, Sonia Mabrouk. Évidemment, et vous voyez que cette crise, elle a mis en évidence un certain nombre de grands enjeux pour l'avenir de notre pays.
Je vais vous poser la question d'une autre manière.
Je vais vous répondre de façon très claire à la question que vous m'avez posée.
Avec de telles difficultés,
oui, je crois qu'il faut effectivement faire des réformes et continuer des réformes structurelles, dont la réforme des retraites. J'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer clairement sur ce sujet-là. Je suis favorable à ce que nous fassions.
Oui, mais depuis, nous sommes passés par une crise inédite qui a pu aggraver les fractures. Et aujourd'hui, j'allais dire en responsabilité, en conscience, vous dites oui, il faut une telle réforme malgré les fractures et la situation du pays.
Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut dire clairement aux Français quelle est la direction qu'on souhaite donner au pays sur des questions absolument fondamentales. Que faut-il faire de la dette? Nous avons contracté, pour faire le quoi qu'il en coûte, une dette très importante. Quel est l'avenir du modèle social français et donc singulièrement de notre système de retraite?
Vous voyez bien que le président est en campagne, il va
dire ces questions-là, sur ces questions-là, je crois qu'il faut répondre très clairement sur la dette, qu'il faut la rembourser, mais qu'il faut continuer à pouvoir investir dans l'avenir du pays, notamment pour la transition écologique. Sur le modèle social français, qu'il faut le conforter et donc, oui, faire une réforme des retraites.
Eh bien, votre réponse est claire ce matin.
Justement, de garantir notre système pour l'avenir. Parce que la question qui est posée aujourd'hui, ce ne sont pas des petites questions, vous voyez. Ce sont des questions fondamentales pour notre avenir collectif.
Serez-vous aussi clair sur la question des régionales? La campagne est largement entamée dans les Hauts-de-France. La liste de la majorité ne décolle pas, alors que 5 ministres sont candidats, et pas des moindres quand même, des ministres de poids. Il y a le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous en concluez que les ministres sont des repoussoirs pour les électeurs?
Mais absolument pas. Et d'ailleurs,
il n'y a pas d'effet.
Regardez, pour répondre très directement à votre question sur les ministres, nous avions une ministre qui était engagée dans une campagne législative partielle, elle s'appelle Brigitte Bourguignon, et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle a été repoussoir. Elle est arrivée très largement en tête du premier tour. Donc vous voyez, quand on essaie de nous vendre une sorte de vote sanction, en réalité, on se trompe complètement.
Alors je précise ma question. Éric Dupond-Moretti veut montrer qu'il est l'arme anti-rassemblement national d'Emmanuel Macron. Force est de constater qu'il ne produit aucun effet dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous en concluez?
Sonia Mabrouk, la vie politique, c'est d'aller au combat.
Mais...
c'est de défendre ses convictions. C'est de porter ses
idées. Oui, mais à la fin, c'est de gagner
Bien.
Si ça ne produit aucun effet.
Vous verrez qu'il y a des régions dans lesquelles nous serons évidemment dans le match. Et puis il y a certaines où nous ne sommes pas sortants. Et nous partons d'un peu plus loin. Est-ce que ça serait une raison pour abandonner? Pour dire, écoutez, c'est un combat difficile,
je
on part
dis,
de loin, on est loin
dans les
sondages. 5 ministres
ne produisent
donc,
aucun effet.
Mener ce combat. Mais c'est l'honneur de la majorité présidentielle de ne pas chercher à éviter la confrontation électorale. Moi, j'avais une position
Monsieur
très claire.
Guérini,
je voulais que notre majorité présidentielle soit rassemblée, c'est le cas, dans toutes les régions, et soit présente partout, dans les 13 régions de France métropolitaine. Eh bien, nous y sommes.
En PACA,
justement,
après des semaines,
pour défendre nos idées et nos convictions.
En PACA, après des semaines de psychodrame, désormais, Thierry Mariani du RN est en tête. Le Rassemblement National vous dit ce matin, merci.
Non, moi je ne m'en satisfais pas, évidemment.
Oui,
et je peux vous dire
les
une
sondages
chose, dans cette région-là, c'était déjà le cas en réalité avant que nous ayons fait justement un acte de dépassement politique, un acte de responsabilité. Et dans cette région, nous avons fait la démonstration que La République En Marche, que la majorité présidentielle saurait être responsable, parfois pour plusieurs, quand je vois l'attitude du parti politique, l'appareil parisien pour le coup, des Républicains. Nous avons fait le choix de la responsabilité.
Mais pourquoi vous êtes dans le déni, M. Guérini?
Dans le déni,
les sondages en PACA, ils sanctionnent l'alliance entre la majorité et Renaud Muselier. Moi, je vous demande quelles leçons vous en tirez.
Moi,
vous
je ne suis pas là pour commenter tel ou tel sondage. Je suis là pour présenter nos idées, et je constate qu'on a peu l'occasion de parler de l'enjeu central de ces élections régionales. Comment est-ce qu'on accélère la relance du pays? Comment on investit dans les mobilités?
Vous voyez, vous me répondez
dans l'éducation.
Pas.
Oui, mais parce que ce sont ça les questions à un moment donné. Si on veut intéresser les électeurs,
vos listes ne
il faut répondre
pas sur ces
aux questions de fond. Il ne faut pas arrêter de répondre aux questions qui sont celles qu'est-ce qu'on fait au premier tour, au deuxième tour,
bon,
et ici.
Et vous, vous n'avez pas engagé des semaines de psychodrame en PACA sur ce sujet?
Mais nous avons fait un choix qui était celui de la responsabilité et du dépassement des clivages. Moi, j'ai toujours été très clair. Je souhaitais que l'on puisse éventuellement travailler avec des présidents sortants, mais dans la clarté, c'est-à-dire la majorité présidentielle représentée dans la campagne. C'est ce que nous avons fait en PACA, parce que justement, je considère que c'est plus net et clair pour les électeurs.
Alors,
de pouvoir
c'est...
mener un premier tour ensemble, de faire campagne
est-ce
sur
que
des
c'est
thématiques.
Aussi net, Monsieur Guérini, dans les Hauts-de-France.
C'est comme ça qu'on aura peut-être une chance
dans
de convaincre.
Dans les Hauts-de-France, si les sondages se confirment dans les urnes avec une arrivée de Xavier Bertrand en tête, puis le Rassemblement National, disons, dans un mouchoir de poche, est-ce que vous dites aussi clairement ce matin que la liste de la majorité a vocation à se retirer totalement au soir du premier tour?
Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut respecter les électeurs. Et respecter les électeurs, c'est respecter le vote de premier tour des électeurs. On oublie trop souvent dans ce type de débat que ce sont les électeurs
non, vous ne me répondez
qui,
pas.
Par leur vote, qui par leur vote
donc vous n'êtes
constituent
pas pour le Front républicain
du deuxième
vous
tour.
Vous estimez qu'il
Mais
est mort?
Vous savez, non, c'est pas comme ça que je le formulerai. Je considère que nous n'avons aucune leçon à recevoir puisque nous sommes la formation politique qui a toujours, sans aucune exception, mené le combat contre le Rassemblement National.
Mais vous me dites que vous voulez combattre le RN.
Et pris toujours
mais
nos
si
responsabilités.
Mais si la liste majorité présidentielle, Monsieur Guérini,
Sonia Mabrouk, j'essaie de vous répondre.
Mais vous n'avez pas de consigne,
jamais,
c'est quand même étonnant.
Jamais contre eux, nous ne manquerons jamais dans le combat contre le Rassemblement National.
Je vous donne un exemple
je veux
précis.
Vous dire les choses
si votre liste arrive entre 10 et 12 et que Monsieur Bertrand est à 34, est-ce que vous vous retirez au soir du premier tour?
Je ne fais pas de politique fiction de cette nature-là. Je ne fais pas
ça s'appelle des consignes et c'est important face au Rassemblement National.
J'ai fait le constat, soyons clairs. Au moment des élections municipales, j'avais posé une consigne à 6 mois du premier tour en disant « je demande à tous nos candidats de se désister de manière automatique ». J'ai tiré quelques enseignements de cela. J'ai vu que le Rassemblement National même utilisait parfois ce type d'argument pour nous faire croire qu'ils étaient anti-système contre le système. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est respectons les électeurs.
La vérité,
les
c'est que vous ne voulez pas laisser
nos idées,
Xavier Bertrand dans un boulevard vers la présidentielle.
Mais c'est pas la question.
Je
vois bien que certains, et ça perturbe le jeu de ces élections régionales. Xavier Bertrand, il a dit pour cette élection que c'était sa primaire. Quel respect pour les électeurs. Il a dit d'ailleurs quelque chose qui me semble, pardonnez-moi, mais un petit peu étonnant, qu'il quitterait la région quoi qu'il arrive. Puisqu'il l'a dit très clairement. Je gagne, je quitte la région. Puisque j'ai mon destin présidentiel, je perds, je quitte
Monsieur
la politique,
Guérini.
Donc je
et
quitte la région. C'est une drôle de proposition, c'est un drôle de respect, ça pour
ça
les électeurs.
Ça ne le nuit pas dans les sondages pour le moment. Stéphane Séjourné, je voudrais vous parler du conseiller politique d'Emmanuel Macron et député européen. Est-ce qu'il
et
a ressuscité
au sein de La République en Marche.
Très engagé, effectivement. Est-ce qu'il a ressuscité le temps du ministère de l'Information?
Faites allusion aux questions qui sont des questions courageuses.
Il veut que les prises de
parole
des éditorialistes les plus engagés soient décomptées. Il vise Éric Zemmour sur CNews. Est-ce que vous êtes d'accord sur une éventuelle réglementation sur ce décompte?
Je pense que la question mérite d'être posée parce que c'est une question aujourd'hui dans le débat démocratique qui doit nous questionner. Il y a
vous
une
avez
sorte
raison de rappeler
d'éditorialisation.
Démocratique, hein.
Oui, mais je vais vous répondre jusqu'au bout. D'éditorialisation d'un certain nombre de médias. On voit aussi l'effet d'une certaine façon, du tout info en continu, quand on crée un
climat. Et vous voulez le maîtriser, c'est bien cela, le réglementer.
Je pense que les réponses à apporter, elles sont loin d'être simples aujourd'hui. Donc j'essaie de vous répondre jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on cherche à faire rentrer le temps de parole de tel ou tel éditorialiste dans le temps de parole politique. Je pense que ça serait trop compliqué, trop glissant.
Allons plus loin, ça pourrait être un problème par rapport à la liberté d'expression,
mais,
plutôt,
mais,
non, Monsieur Guérini.
Mabrouk, je pense que c'est des questions que Stéphane Séjourné a eu raison de mettre sur la table, parce que ce sont des questions qui, collectivement,
attendez, imaginez un instant qu'une personnalité de droite ou du Rassemblement National fasse une telle proposition. Vous auriez immédiatement, ici, ce matin, dans ce studio, crié à la dictature.
Je crois que je vous ai répondu assez clairement sur, à la fois, ce qui doit nous interroger collectivement. Les questions qu'il a posées sont des bonnes questions. Mais je vous ai dit tout autant que je n'étais pas favorable parce que je trouve qu'il n'y a pas de question de réponse facile et claire à mettre en place.
Vous avez un problème avec la liberté d'expression quand on n'est pas d'accord avec vos idées. Hein.
Vous voyez ce que j'essaye de vous répondre ce matin.
Il est conseiller politique du président, donc on s'interroge.
Je pense qu'il a poser des bonnes questions, qu'en l'occurrence, les réponses à y apporter, je ne pense pas, et voilà, que ça soit dit clairement, que ça soit de faire rentrer le temps de parole des éditorialistes dans le temps de parole politique.
En conclusion, selon Stéphane Séjourné, je cite, certains programmes participent à l'abaissement du débat politique. Pour le relever, monsieur Guérini, est-ce qu'il faudrait davantage organiser des concours d'anecdotes avec des youtubeurs à l'Elysée ou des roulades sur la pelouse?
D'abord, pour le relever, pour répondre, il faut parler du fond et du contenu. Je vous remercie de m'avoir invité ce matin. Je crois qu'on gagne à être entendu par les électeurs, par nos concitoyens. D'abord quand on écoute, c'est ce que fait le président de la République, et ensuite quand on parle des vrais problèmes, des vrais sujets de notre pays. C'est ça l'enjeu, c'est comme ça qu'on va relever le débat démocratique.
Nous sommes en campagne, nous en parlons. Merci en tous les cas d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28 sur Europe 1. Dans un instant, l'info, la météo et le journal de Roland Garros. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Marion Calais.
Après la panne et les perturbations sur les lignes des numéros d'urgence, Orange annonce ce matin le lancement d'une enquête interne. Ses conclusions doivent être rendues sous 7 jours. Panne soupçonnée d'être à l'origine de plusieurs décès, dont celui d'un enfant de 2 ans et demi en Vendée hier matin. Ce sera la prochaine étape du déconfinement mercredi prochain, le 9 juin. Et ce matin, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, assure que les Européens vaccinés pourront dès le 9 juin, entrée en France sans test PCR. 300 policiers engagés depuis ce matin à Calais, opération d'évacuation de plusieurs centaines de migrants. En début de semaine, des affrontements avec la police, présentés comme les plus violents depuis 5 ans, avaient fait 4 blessés.
Merci Marion Calais. 8h32 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Oui, avec ces orages terribles qui ont traversé Paris, qui traversent encore Paris, hein, et Paris, sa région, toute l'île de France, qui sont maintenant pratiquement sur la Picardie. Ces orages ont tendance à s'estomper un petit peu, et il semble qu'on mesure 15 jours de pluie en une heure, ça me paraît énorme, mais enfin, c'est quand même l'intensité de ce que nous avons subi et tout ce que les Parisiens ont subi plus exactement depuis ce matin. Voilà, c'est une zone orageuse, donc c'est un combat entre la masse d'air froid qui se trouve sur l'ouest, parce qu'à Brest, il faisait ce matin 5 degrés, alors qu'il en faisait 20 à Lyon. Vous voyez la température, la folie de différence de température entre Brest et Lyon. C'est la raison pour laquelle ces orages sont si violents. Alors, ils vont participer à la météo de toute la journée, c'est-à-dire que toute la journée nous aurons des orages à peu près partout, excepté sur la Bretagne et le Cotentin où là ils sont déjà partis, et puis sur des régions de l'Est ils arriveront ce soir, notamment sur la ville de Lyon, etc. Mais partout ailleurs nous aurons du côté de la Champagne-Ardenne, de la Bourgogne, du Massif central, enfin bref, partout ailleurs il y aura des orages très violents tout au long de cette journée de vendredi qui s'annonce vraiment, vraiment particulièrement méchante aujourd'hui en ce qui concerne les intempéries.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe 1, le journal de Roland Garros.
Et c'est l'heure de retrouver Corinne Boulou pour le journal de Roland Garros. Bonjour Corinne.
Bonjour Mathieu.
C'est vrai qu'on aime bien voir les Français aller plus loin. En plus, il y a le public maintenant qui est revenu. Donc oui, la déception de savoir qu'il n'y aura plus de Français alors qu'ils sont un peu chez eux.
Voilà, il faut soutenir la nouvelle génération. Et on espère avoir des jours meilleurs dans le tennis français.
Oui, c'est vrai que la défaite de Richard Gasquet tard hier soir est venue clore le chapitre le plus sombre du tennis français. Aucun Français, ni aucune Française au troisième tour, l'équivalent des 16e de finale. C'est du jamais vu depuis le début de l'ère Open en 1968.
Wow. Le chiffre du jour, 7.
Comme les 7 jeux laissés par Raphaël Nadal à Richard Gasquet dans le silence du court châtrier. Après un début difficile, l'ancien numéro 1 français n'a pas démérité, mais au bout du compte, c'est l'Espagnol tenant du titre qui gagne.
Il n'y a que ceux qui le jouent qui savent ce que c'est. Quoi. C'est facile dans les tribunes de dire qu'il peut prendre une branlée et tout, mais il faut y être sur le court. Tu vois. Quand tu y es, c'est déjà énorme. Donc c'est incroyable parce qu'il n'y a pas une balle que tu peux jouer doucement, sinon c'est la sanction immédiate. Et c'est ça qui est fou. Quoi. La balle navigue à une vitesse folle. Il y a une brutalité. Personne ne fait ça, je pense, dans l'histoire. Quoi.
Et Richard Gasquet a donc rejoint Gaël Monfils, Fiona Ferro et Kristina Mladenovic au rang des éliminés du jour, comme les 25 autres Français au début du tournoi. Triste bilan.
Oui, très triste bilan. Mmh. Après, je comprends ce que dit Richard Gasquet. Il faut être en face de Nadal quand même.
Exactement.
L'héritier du jour, retenez bien son nom. Carlos Alcaraz.
Oui, c'est la nouvelle pépite du tennis espagnol. À 18 ans, il est le plus jeune joueur du top 100 mondial. Il est 97e. Hier, il est devenu le plus jeune à se hisser au troisième tour de Roland-Garros depuis l'Ukrainien Andrei Medvedev en 92 et le plus jeune joueur en grand chelem depuis un certain Rafael Nadal, son idole à l'Open d'Australie en 2004.
Ouais, j'ai déjà entendu parler de Rafael Nadal. L'info insolite du jour, quand Roger Federer se fâche.
Alors oui, le Suisse n'a pas du tout apprécié que l'arbitre français Emmanuel Joseph lui inflige un avertissement hier. Federer pour avoir pris trop de temps entre deux points, ce qui a donné lieu à un échange tendu entre les deux hommes sous les yeux du public, capté par le micro d'ambiance.
Tu m'écoutes ou tu parles ? Je t'ai écouté avant, maintenant tu m'écoutes aussi une fois. Mais vas-y, c'est toi en train de parler à chaque fois. Tu penses qu'il n'était pas content que j'ai pris trop de temps ?
Possible.
Ouais, vous voyez, ouais, Roger, il se fâche quand même
mais
aussi.
C'est bien
hein.
D'avoir des micros partout. Moi, j'aime bien aussi. On termine.
C'était la petite souris du jour.
Oui, c'est ça. On termine par l'affiche du jour.
Oui, avec la reine Serena Williams, l'américaine de bientôt 40 ans, est arrivée à Paris sans repère. L'an passé, l'ex numéro 1 mondial avait été arrêtée dès le deuxième tour. Elle, dont la dernière victoire porte d'Auteuil remonte à 2016. Notre consultant Cédric Pioline estime qu'il y a encore danger aujourd'hui pour Serena Williams s'opposer à sa compatriote Danielle Collins, quart de finaliste l'an passé.
Serena, pour l'instant, n'a pas été très convaincante dans ce qu'elle a montré sur le court. Elle a été accrochée. Alors, elle porte un bandage à une cuisse. Est-ce que c'est juste de la prévention ou est-ce que c'est un petit bobo, voire un peu plus ? Ça, c'est une interrogation. Et puis surtout, elle joue une joueuse extrêmement dangereuse qui est athlétique, un petit peu plus jeune qu'elle, qui frappe très fort et qui a fait un super parcours l'année passée. Donc c'est typiquement, je dirais, le match piège pour Serena.
Et à partir de 21h, c'est le grec 5e mondial Stefanos Tsitsipas qui aura le droit à la session de nuit à huis clos face au géant américain John Isner. Et s'il continue de pleuvoir, il y a le toit qui assure
oui.
Le programme minimum au moins sur le court Châtrier.
Et puis on l'a vu lundi matin, en vrai, il y a bien le toit et le court Philippe Châtrier peut être couvert. Merci. Tiens d'ailleurs, il n'y aura pas de français en finale du coup. Hein.
Ah non.
J'ai compris la logique de ce
en
qu'on a annoncé.
En tout cas, dans les simples.
Bon, malheureusement, cela dit, on vous envoie en finale. Finale homme ou finale dame, vous aurez le choix. Inscrivez-vous au tirage au sort, vous envoyez tennis par SMS. Au 739-21. 8h37 à suivre notre santé, Jimmy Mohamed.
Je vous propose ce matin de prendre soin tout simplement de votre peau à la veille de la journée nationale de l'eczéma.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1, l'heure de retrouver le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé. À la veille de la journée nationale de l'eczéma, vous avez souhaité faire une mise au point sur cette pathologie extrêmement fréquente.
Oui, c'est d'ailleurs une des pathologies dermatologiques les plus fréquentes. Elle touche environ 10% des enfants. Alors pour faire très simple, je vous rappelle que l'eczéma, c'est une maladie de la couche superficielle de la peau qu'on appelle l'épiderme qui va être trop fragile. En clair, la barrière cutanée va surréagir et se sentir en permanence agressée. Cette fragilité, elle va s'exprimer par deux symptômes que sont 1. La sécheresse cutanée et 2. Les démangeaisons. L'eczéma, elle est aussi souvent associée à des allergies comme des rhinites allergiques, des allergies alimentaires ou encore de l'asthme. Alors on ne connaît pas tous les facteurs de risque, mais il y aurait une prédisposition génétique car plus de 50% des patients atteints d'eczéma ont au moins un parent qui en souffre aussi.
Et justement, comment on fait pour lutter contre cette sécheresse cutanée ?
Alors ce que je vais vous dire est valable pour tout le monde, même ceux qui ne souffrent pas d'eczéma. Lutter contre la sécheresse cutanée passe par un geste très simple, à savoir l'hydratation. Il faut nourrir la peau et rétablir cette barrière cutanée qui est altérée. Ces crèmes hydratantes, on les appelle aussi des crèmes émollientes à appliquer de préférence le soir après la douche. Douche d'ailleurs qui n'est pas obligatoire tous les jours. Un jour sur deux est largement suffisant. Privilégiez les douches rapides au bain qui vont favoriser la macération et donc fragiliser votre peau. Et puis n'oubliez pas qu'il faut éviter les douches trop chaudes car elles vont aggraver les démangeaisons mais aussi la sécheresse cutanée. Une eau aux alentours de 37 degrés est parfaitement adaptée. Enfin, ne négligez surtout pas le savon qui peut dessécher et aggraver l'état de votre peau. Utilisez plutôt des huiles lavantes ou des produits surgras qui vont permettre de reconstruire le film protecteur de la barrière cutanée.
Et du côté des traitements, est-ce qu'il y a des innovations, Jimmy ?
Oui, car les patients qui souffrent d'eczéma ont une sorte de dérèglement du système immunitaire et il existe effectivement des traitements qu'on appelle des immunosuppresseurs ou encore des biothérapies qui peuvent améliorer les cas les plus graves. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à 15h avec Mélanie Gomez pour notre 200e émission de la saison consacrée justement à l'eczéma.
Avec des bougies alors, 200e, félicitations à vous Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez. Sans rendez-vous, c'est à 15h sur Europe 1. Merci Jimmy. 8h41 sur Europe 1, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
J'étais en train de regarder, vous allez nous parler d'un drôle de mélange, un élevage de gambas pour faire pousser des légumes. Ça y est, j'ai faim.
Mais oui.
Ça y est, c'est l'idée folle en fait, c'est une idée un peu saugrenue, de faire de la permaculture, oui, avec des crustacés. Depuis 2016, deux ingénieurs agronomes ont travaillé là-dessus sur une technique qui combine l'aquaculture de gambas et le maraîchage. Les gambas sont élevés dans des bassins d'eau salée où ils relâchent des effluents, et ces effluents, ces déchets, sont dans des bassins donc chargés et acheminés petit à petit vers des biofiltres où des bactéries vont les transformer en fertilisants pour les légumes qui poussent en hydroponie, c'est-à-dire avec leurs racines qui baignent dans l'eau courante.
Bon, il y a plein de nouveaux mots pour beaucoup, mais cela dit, il y a un cercle vertueux qu'on comprend bien. Vous dites que ce curieux mélange agricole pourrait faire d'une pierre deux coups pour la transition écologique ?
Mais oui, parce que l'élevage de gambas n'est à la base pas du tout écologique. Nous, les Français, on raffole des gambas. Sachez qu'on en consomme, à nous seuls, 120 000 tonnes chaque année. Mais ces crustacés vivent à l'origine dans un milieu particulier, des forêts de palétuviers immergés, qu'on appelle plus communément les mangroves. Ces mangroves sont victimes d'une déforestation ahurissante. 35% d'entre elles ont disparu durant les 20 dernières années. Alors réorienter notre appétit pour les gambas vers une consommation locale devient impératif. Mais la valeur ajoutée du maraîchage à la sauce gambas réside surtout dans le fait de maîtriser l'hydroponie avec de l'eau salée. Cette découverte permet de faire fonctionner un bassin aquacole et un bassin hydroponique en circuit d'eau fermé, ce qui permet d'économiser 90% d'eau par rapport à un maraîchage classique.
Ah oui, un exemple de comment la résilience alimentaire s'inspire des écosystèmes, finalement, loin de la spécialisation absolue des productions.
On est loin de tout ça. C'est pour cela que j'évoquais la permaculture un petit peu plus haut. L'idée est d'utiliser intelligemment les interactions naturelles des êtres vivants pour subvenir à nos besoins. Car l'allocation d'espace à des productions très spécifiques nous conduit à détruire, comme dans les mangroves, des mécanismes biologiques complexes qui permettent à des espèces fragiles de collaborer, de coexister et de prospérer. C'est aussi la technique employée par Saveol. Je crois que vous en avez parlé en
oui,
début de semaine, l'entreprise.
Hier, oui, ou avant-hier, oui.
C'est ça, on en parlait sur Europe 1, c'est une entreprise qui utilise les insectes pour se débarrasser des ravageurs de cultures, et cela sans pesticides. Alors, j'ai envie de dire ce matin, gardons un œil très attentif sur toutes ces tentatives d'utiliser intelligemment la nature pour traiter les problèmes qu'elle a finalement toujours su régler sans nous.
Et à la fin, gambas et légumes. On a compris quand même le menu. Merci Fanny Agossi. Non mais c'est
bon
comme la carotella. Au bout du bout du bout, si on respecte tout ça, on a des gambas et des légumes. Moi, je prends des légumes glacés comme ça avec des gambas sautés. Julie, non, on n'est pas contre.
Pas contre du tout.
Pas. Julie, vous l'entendez, s'est installée à suivre la revue de presse que Nicolas Canteloup.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actualité.
Et oui, bien sûr, les titres d'actualité, elle est lourde, l'actualité. Bonjour ma chère Julie, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez forcément sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est bien sûr la météo, on en parlait avec Laurent Cabrol. Nous sommes à Paris, on regarde l'orage par la fenêtre du studio. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo est avec nous. Madame Hidalgo, vous nous entendez?
Oui, bonjour à tous. Et permettez-moi, monsieur Béliard, de saluer les Parisiens et les Parisiennes et de leur dire, n'hésitez pas à profiter de nos jolies terrasses aujourd'hui.
Oh bah oui,
mais
tombe,
petit
ouais.
Conseil de la mairie de Paris, passez par Décathlon auparavant pour prendre une petite tenue de plongée.
Écoutez, merci du conseil, madame Hidalgo. L'autre info, c'est la Ligue 1, vous le savez, qui va passer à 18 clubs en 2023-2024 pour cette saison-là. On comprend, 20 clubs, c'est vrai que c'était trop. On en parlait avec Virginie Fulpin. Après, 18 clubs de Ligue 1, ça en fait quand même 14 ou 15 de trop quand même. Allez, allez, encore un effort, la Ligue. Et puis, l'actualité ce matin, c'est aussi Emmanuel Macron qui continue son tour de France à la rencontre, comme il dit, de la France heureuse. La France heureuse, et oui.
Bonjour la campagne heureuse. Bonjour les gens joyeux. Oh oh, un papillon. Comme vous avez de la chance de vivre ici dans la ruralité joviale. Vous m'entendez, monsieur Béliard? Madame Julie?
Oui,
je suis ici à la rencontre des Français.
Oui, on a bien compris.
Si vous saviez, c'est des Français gentils, aimables, qui habitent dans des villages dont 70% des habitants votent pour moi. Ils sont tous formidables. Oh, là, un petit lapin.
Oh non, c'est pas vrai.
Ou un mouton, je ne sais pas. Il y a tellement longtemps que je n'en ai pas vu. Vous savez, je suis un citadin là-bas. Je découvre tout, c'est formidable. Vous avez vu comme je suis sympa et que les gens m'aiment bien?
Ah oui,
c'est
très
fou. Sympa. Allez, encore 4 ou 5 villages et je rentre à Paris. Oh putain, j'en peux plus.
Le cri du cœur. Allez, la situation semble revenue à la normale hein, après la panne des numéros d'urgence. Le Premier ministre est avec nous maintenant. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour. Il n'y a pas de petite musique, it's small world.
Ah bah non, là pour la panne orange, non.
Bonjour maman Julie. Bonjour monsieur Béliard. Bonjour à papy et à mamie qui n'ont pas pu appeler malheureusement les urgences. Et je leur dis désolé, désolé. Mais ceci dit, déjà qu'utiliser un téléphone portable, c'est compliqué pour eux. Alors si le numéro en plus ne marche pas...
Oh, s'il vous plaît. Mais ça s'arrange ou pas alors?
Alors écoutez, Vivi. Écoutez, j'ai rencontré le PDG d'Orange qui m'a assuré que ce crash des cartes mères, des providers USB, des serveurs HDMI, des Minitel protocolaires étaient terminés. Voilà. Il a fallu réparer, donc vous l'avez compris, tous les logiciels, des disques durs, des barrettes de mémoire branchées sur le Péritel. Oui. Non, je sais, Vivi, non, vous ne comprenez pas, moi non plus, rassurez-vous. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop en guirlandais. Je ne saurais même pas cliquer moi-même sur une disquette. Donc,
bon,
voyez.
Bref, vous avez mis en place des numéros de secours, hein, c'est ça?
Exactement. Si vous. Écoutez, ne me mettez pas en demeure de. Je sens que vous ne me croyez. Vous êtes incrédule. Écoutez, je vous propose de les tester en votre présence afin ainsi de rassurer, et c'est mon but, de nos concitoyens. Bon, allez, on appelle. Allô, urgence de secours, c'est pas tout de suite. Il y a la musique. Urgence de secours. Christiane, à votre écoute, j'écoute. Ne quittez pas, attendez. Non, parce que j'ai un autre patient. Je vous fais patienter à musique. Je prends votre urgence dans 20 petites minutes.
Oh non, puis c'est 20 minutes.
Les politiques l'inverse, ça.
Oui, c'est ça.
Non, c'est magique.
Prenons notre temps, on s'appelle.
Merci à patienter en musique. Que puis-je pour vous? Oui, bonjour Madame Christiane, ici Jean Castex. Comment ça se passe pour ces urgences de secours? Je m'en inquiète en tant que responsable de l'État tout de même. Oh mon Monsieur Castex, si vous saviez, ça n'arrête pas. Hein. On est obligé de s'organiser avec toutes ces pannes. Par exemple, on a mis en place un planning. On va prendre, donc attendez, je revérifie ma feuille de planning. On prend, voilà, les crises cardiaques le lundi, les fractures le mardi, et nous... Attendez, oh, encore un appel urgent. Oh, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Articulez, je ne comprends pas ce que vous dites. Un AVC, vous avez un AVC. Oui, non, mais les AVC, monsieur, c'est le mercredi maintenant. Hein? Non, mais articulez, monsieur, on ne comprend pas. Rappelez la semaine prochaine. Voilà, au revoir, monsieur. Oui, c'est ça, oui, bien sûr.
On vous souhaite bon courage, ma pauvre Christiane. Allez. Évidemment, cette panne pose de nombreuses questions, évidemment. Et on va. Qui intervient, chère Julie, la parole.
Elle ne pose pas de nombreuses questions, elle ne pose des questions qu'aux esclaves de la technologie moderne, mais ma chère Julie, mon cher Mathieu.
C'est Pernod qu'on entend, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à tous, bonjour également mon cher Laurent Cabrol. Sachez que dans nos charmants petits villages, la panne de chez Orange a été ressentie de façon beaucoup moins problématique, car personne n'a le téléphone de toute façon.
Oh, allez, ça commence.
Et bien, écoutez, sachez, ma chère Julie, que lorsqu'on a une urgence dans nos charmants petits villages de province, par exemple, face à un voleur de poules, eh bien, on n'appelle pas le 17, on appelle directement son voisin, Émile, 97 ans, qui prend sa vieille carabine qui date de la Deuxième Guerre mondiale, avec laquelle il a chassé les Allemands de son champ de pommes de terre en 1944. Voilà, deux coups de chevrotine, et croyez-moi, les affaires sont réglées. En cas de blessure, pas besoin de SAMU, bien sûr, puisque les druides du village, toujours efficaces, sont là pour préparer des cataplasmes aux lisiers de porc de façon traditionnelle qui remettent d'aplomb en un rien de temps. Comme quoi nos anciens géraient nos urgences mieux que nous.
Oh là là. Merci Jean-Pierre Pernod. Autre chose, Éric Zemmour va-t-il se présenter en 2022? Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de François Fillon, aurait été approché pour être son directeur de campagne, d'après Valeurs Actuelles en tout cas. Oh non, mais c'est parti.
Vous m'annoncez que des bonnes nouvelles ce matin, c'est Disneyland. Arrêtez, arrêtez, la musique enregistre, c'est insupportable.
À vous, Emmanuel Macron. Alors, bonjour. Hein. Comment ça, vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Elle vous réjouit, cette candidature d'Éric Zemmour?
Mais bien sûr, mais le dis haut et fort, il faut voter Éric Zemmour. Il est formidable, il a du charisme, il est beau, c'est l'homme qu'il faut pour la France. Votez Zemmour, Zemmour 2022. Oh là 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 là. Par ailleurs, super choix de directeur de campagne, Patrick Fetaneneu.
Non, non, Stefanini, pas Fetaneneu. Non, mais vous soutenez Éric Zemmour, Emmanuel Macron.
Je ne soutiens pas Éric Zemmour, je soutiens sa candidature. C'est la seule candidature, je dis tout bas, qui peut piquer des voix à la Marine Le Pen.
Ah,
c'est la seule chance que le Rassemblement National ne se retrouve pas au second tour. Donc je le dis, allez-y, votez Zemmour. Allez-y, il y a trop d'immigrés dans ce pays de toute façon. La justice est laxiste et Marine Le Pen est trop molle. C'est Darmanin qui l'a dit. Zemmour président, putain. Ce qu'il ne faut pas faire pour être réélu.
Ah oui, comme vous dites. À ce sujet, Marine Le Pen a demandé à son père, Jean-Marie, de lui venir en aide en dissuadant Éric Zemmour de se présenter.
Hé, hey, tiens donc. Oui, on me coche plus, n'est-ce pas? On me renie et on m'expulse. Et quand les choses tournent de vinaigre, n'est-ce pas, on vient pleurnicher dans les jupons de papa.
Jean-Marie Le Pen.
Oui, bonjour, Mme Leclerc. Écoutez, c'est l'ironie de la situation de savoir que... Papa, pardon. Oui, sois gentil. S'il te plaît, dis arrêter. Dis à Eric d'arrêter. Il me pique toutes mes jouets, là. Il fait rien qu'à copier sur moi. En plus, je te ferai dire, il m'a piqué tous mes thèmes de campagne. Il m'a piqué mon élection présidentielle. Et je sais qu'il va me la piquer.
Marine, sois gentil. Tu peux partager quand même avec Eric.
Mais c'est mon élection. D'abord, je dois représenter le peuple. C'est moi qui dois le représenter.
Marine, tu arrêtes tes caprices. Je n'aime pas beaucoup ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas ton peuple, n'est-ce pas? Tout le monde peut jouer avec. Hein, laisse Eric s'amuser aussi. Oh, franchement, dites donc, faites des gosses, hein, monsieur Béliard. Vous verrez, quand les vôtres auront grandi, qu'ils voudront représenter la droite dans une élection, vous aussi, vous aurez des cheveux blancs, croyez-moi.
Bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. On fait une bise à Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presse. 8h56, Philippe Vandel est avec nous. Mais ici, oui, en studio Mathieu. Culture Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Notre infomédia, on va parler de la télé-réalité la plus regardée de France, est Koh-Lanta. Et ce soir, c'est la grande finale avec la mythique épreuve des poteaux, suivie de l'ultime vote des candidats. Nous serons avec la productrice Alexia Laroche-Joubert en personne et l'une des candidates finalistes et emblématiques, c'est Maxine. On va s'intéresser au tennis et au dispositif de France Télévisions. On sera avec celui qui fait vivre Roland Garros aux téléspectateurs depuis sa terrasse, Laurent Luyat. On sera aussi avec le nouveau consultant, le joueur, l'ancien joueur Julien Bento, qui a gagné Roland Garros, mais en double, et l'ex numéro 1 mondial Justine Hénin, qui a gagné 4 fois Roland Garros. Et puis le réalisateur Éric Lavagne, il avait réalisé Barbecue, 1,5 million d'entrées. Aujourd'hui, il donne une suite à son film Retour chez ma mère. Ça s'appelle Un tour chez ma fille et c'est savoureux et grinçant.
C'est Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel et toute son équipe. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller demain, après-demain, lundi matin. J'ai pris quelques jours parce que j'espérais voir des Français en deuxième semaine à Roland Garros. Finalement non, mais je serai quand même en vacances. C'est Sébastien Krebs qui vous racontera le monde qui change dès 7h lundi.